Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, le dimanche donc, qui précède la fête du Christ-Roi, fête qui marque le terme de notre année liturgique, eh bien ce dimanche nous parle toujours du sens de notre histoire humaine. Elle a eu un commencement et elle aura une fin. La Bible, en effet, nous montre comment Dieu se révèle progressivement dans l'histoire d'un petit peuple. Ce petit peuple qu'on appelle Israël, et qui était constitué à l'origine par les 12 fils de Jacob, qui avaient reçu, souvenez-vous, après son combat avec l'ange, au gué du Yabok, le nom d'Israël, qui signifie « fort contre Dieu ». Le mystère de l'incarnation, bien des siècles plus tard, de l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus de Nazareth, marque quant à lui l'accomplissement de cette révélation, et dès lors, l'entrée de toute l'humanité dans ces temps qui sont les derniers, comme nous l'affirme le commencement de la lettre aux Hébreux. Je cite « Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les temps derniers, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. » Fin de citation. L'ère chrétienne dans laquelle nous nous trouvons est donc celle déjà des derniers temps. Avec l'alliance nouvelle et établie, et avec l'alliance nouvelle et éternelle établie par Jésus, la fin de notre monde tel que nous le connaissons a déjà commencé. Il est donc inutile par ailleurs de chercher à connaître la date de la fin du monde, c'est-à-dire le moment où le monde se terminera. Du reste, on confond très souvent le concept de fin du monde avec le concept de la fin des temps, qui n'est pas du tout la même chose. Et il est important, par conséquent, de consacrer plutôt son temps et son énergie à nous préparer à la venue du Christ en devenant des saints. Un peu comme les premiers chrétiens s'y préparaient, mais sans pour autant délaisser les nécessités de la vie temporelle. Les premiers chrétiens, en effet, en tout cas certains, pensaient que la fin du monde étant toute proche, ils n'avaient plus à travailler. On leur avait affirmé que la figure de ce monde était en train de passer, que le Seigneur allait bien vite revenir. Et du coup, sans doute un peu par paresse aussi, ils avaient décidé de ne plus rien faire. Cela explique l'exhortation au travail que Paul adresse aux Thessaloniciens dans notre deuxième lecture, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Alors ces quelques chrétiens vivaient de manière désincarnée, en attendant le retour imminent de Jésus, sans savoir que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans pour nous. Il faut donc se préparer à la venue prochaine du Seigneur tout en vivant l'instant présent. Travailler à la venue du Seigneur, dit saint Paul, c'est donc faire un effort sur nous-mêmes tout d'abord pour nous convertir et devenir des saints, afin que le Seigneur nous trouve nets et irréprochables lorsqu'il viendra. Beaucoup de prophètes, quant à eux, avaient également annoncé la fin du monde à travers ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Pour eux, ce jour correspondait au jugement dernier décrété par le Seigneur pour marquer l'avènement de son retour définitif. Malachie, dans la première lecture, nous en donnait le résumé. « Le jour du Seigneur, disait-il, viendra brûlant comme une fournaise. Devant lui, tous les arrogants et tous ceux qui commettent l'impiété seront comme de la paille, autrement dit, transformés en cendres, anéantis. » Alors c'est dans ce contexte biblique que nous pouvons beaucoup mieux comprendre le sens de l'évangile de ce dimanche. Tout commence à partir d'une remarque des disciples de Jésus sur la beauté du temple, ce temple qui était, si vous vous souvenez, l'une des 7 merveilles du monde. Bien, Jésus leur répond, voyez-vous, ce temple, aussi merveilleux soit-il, sera détruit. Et en disant cela, le Seigneur n'annonce pas seulement la venue des armées romaines et la destruction du temple de Jérusalem en 70. Mais il veut également faire comprendre que même les choses les plus sacrées, à l'instar du temple, ne sont en réalité que passagères et ne doivent pas être par conséquent absolutisées. Ce faisant, dans son discours, Jésus conjugue à la fois des prédictions et une prédication. Les termes sont presque semblables, mais il y a un va-et-vient sans cesse entre les deux. Au regard de l'histoire humaine, ce n'est donc pas le temple de Jérusalem et son culte qui sont importants, mais l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le cœur des hommes. Car le temple que Dieu désire, c'est avant tout chacun d'entre nous. Et c'est bien par l'offrande de sa personne sur la croix que Jésus nous permet de devenir les sanctuaires de la Sainte Trinité. Dans son discours, le Seigneur mêle donc des perspectives historiques différentes, la ruine de Jérusalem et la persécution des premiers chrétiens d'une part, et la venue du jour du Seigneur d'autre part. La première, la destruction de Jérusalem, n'est que le signe avant-coureur de cette aube qui pointe déjà et qui deviendra le jour du Seigneur. Mais avant, affirme Jésus, il faudra que les disciples soient persécutés. Il faudra qu'ils témoignent de son nom jusqu'au don de leur vie. Alors on pourrait se dire aujourd'hui, bien cette persécution, elle a eu lieu il y a longtemps, c'est terminé, mais ce serait oublier précisément que l'Église, corps mystique du Christ, continue aujourd'hui encore dans divers endroits du monde à être persécutée. Les persécutions ne sont donc pas terminées. Et en tant que telle, elle continue à être le signe annonciateur que le Seigneur viendra bientôt. Méditer sur le jugement dernier qui marquera donc le terme de notre histoire temporelle implique par conséquent de ne pas perdre de vue que nous avons à travailler à notre propre sanctification. Persévérez, dit le Seigneur, et vous serez sauvés. Persévérez à quoi ? Persévérez sur le chemin de la sainteté, persévérez sur la renonciation au mal. Il peut arriver parfois que telle chose mauvaise soit tentante pour moi et on se dit à l'intérieur, bon, après tout, c'est pas grave. C'est qu'un petit truc à côté d'un crime, à côté de choses bien plus épouvantables que font les autres, ce n'est pas grave. Et c'est précisément là qu'il faut résister. Sur les petites choses, vous avez été honnête, digne de confiance dans les petites choses, dit le Seigneur. Eh bien, c'est pourquoi je vous en confierai de plus grandes encore. Et renoncer au mal commence à renoncer à toutes ces petites choses qui peuvent nous détourner de l'amour de Dieu et du prochain. Alors pour beaucoup d'entre nous, le jour du jugement dernier peut paraître peut-être bien éloigné. Et pourtant, on oublie aussi que ce jour du Seigneur peut coïncider avec le moment de notre propre mort. Si bien que le jugement dernier se fait déjà entendre au moment où notre âme paraît devant Dieu pour être jugée selon le bien et le mal que nous aurons fait ici-bas. Saint Jean de la Croix a dit « Au soir de ta vie, tu seras jugé sur l'amour ». Alors faut-il pour autant attendre le jour de notre mort pour faire un examen de conscience ? Ce serait bien imprudent, n'est-ce pas ? Car le temps finalement nous est offert pour nous préparer à paraître devant Dieu. Si le jugement dernier ou le jour du Seigneur nous paraît tant éloigné, eh bien tant mieux. Cela signifie que Dieu patiente, cela signifie que j'ai le temps encore de me tourner vers lui. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Regardez ces chrétiens persécutés. Jésus leur disait, vous serez traînés devant les tribunaux, mais ouvrez-vous à l'action de l'Esprit-Saint et vous saurez comment vous défendre. Et vous aurez la force de persévérer et de témoigner jusqu'au bout. Et lorsqu'on se sent abattu par les épreuves, c'est parce que nous oublions cette parole de Jésus. Nous oublions que celui qui a l'Esprit-Saint est capable de vivre en fils de la lumière. C'est donc au milieu d'un monde passant par les douleurs d'un enfantement qui dure encore que nous sommes témoins ou que nous avons à être témoins de notre espérance. C'est au sein des tribulations de notre propre histoire humaine que nous possédons déjà la vie éternelle. Et notre attachement au Christ ne fait pas de nous des optimistes béats. Aujourd'hui, on prend les chrétiens pour des gens naïfs, pour des faibles. C'est tout le contraire. Un chrétien lutte pour la vérité et la justice. Un chrétien s'engage chaque jour pour que la création nouvelle puisse advenir. Alors oui, c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Les difficultés, les oppositions inévitables ne doivent jamais nous faire oublier la promesse du Seigneur. Le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans ses rayons. N'ayons pas peur alors de nous exposer au soleil de l'amour de Dieu. Amen.